Sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good. 30 minutes pour partager les ondes positives d'une invitée cette fois-ci. Et oui, Cécilia, veille à la parité. Je sais que tu es attentive aussi. Elle partage ses ondes positives, les ondes positives, celles d'une femme engagée, passionnée aussi. C'est le but de I Feel Good, rencontrer des hommes et des femmes qui vous donnent envie d'agir parce qu'eux-mêmes se donnent pas mal dans leurs engagements. Madame, mesdemoiselles, messieurs, vous avez le prénom, il vous manque le nom. Cécilia Gégin.
So good, so good, I got you.
Bonjour Cécilia.
Bonjour Christophe.
Ah dis donc, okay. Alors tu es arrivée just in time, on va tout dire, vous savez tout. Et puis en fait j'avais peu d'infos sur Cécilia que je croise depuis très longtemps sur Nancy quand même, on se croise depuis un petit bout de temps. Et puis là tu me sortais plein de trucs que tu avais fait. On peut commencer par une de tes dates importantes dans ta vie, c'est celle de mars 92.
Alors mars 92, oui, je te le disais, j'ai eu le bonheur et le plaisir de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, un artiste immense, Yehudi Menuhin, qui, au-delà de son apport culturel artistique, est aussi quelqu'un qui a une histoire tout à fait singulière, qui est très ancrée dans la vie européenne et les drames de notre continent. Oui, ça m'a beaucoup marquée. J'ai eu l'occasion d'organiser, dans le cadre de mes études, fait un petit peu d'événementiel et de communication dans le domaine artistique. Et je l'ai accompagné sur une tournée de 12 dates internationales. Et j'ai eu le bonheur de pouvoir le croiser, le côtoyer, le toucher de tout près. Et ça m'a beaucoup émue parce qu'à l'époque, c'était déjà quelqu'un de très âgé. Et malgré l'immensité de son talent, son aura, c'est quand même quelqu'un qui a été anobli par la reine d'Angleterre. J'ai été complètement charmée par l'accessibilité, par la simplicité de ce petit homme qui créait quelque chose autour de lui qui vous mettait vraiment en connexion avec le divin. Voilà.
Alors, à la fois très spirituel, très musicien, bien sûr, très philosophe.
Oui, très philosophe.
Qu'est-ce que tu rajouterais encore ?
Tout simplement humain. C'est une petite anecdote.
Justement, c'est pour sortir de
cet
éducatif.
Ce qui m'a vraiment marqué, c'est à la fin d'une soirée qui avait été pleine de tensions, pleine de difficultés. On a eu l'occasion
sur un événement,
se retrouver avec un tout petit groupe. Et il y avait énormément de tensions. Et en fait, il a pris son violon.
Parce que ça s'était mal passé là.
Ça s'était pas mal passé, mais c'est toujours très tendu. Il y a une direction artistique qui est toujours. Voilà, c'est un monde de diva hein, quand même, la musique classique. Et en fait, il a tout simplement pris son violon et il s'est installé dans une petite pièce et on a fait une espèce de petite ronde comme ça autour de lui. On était 5-6 et il s'est mis à jouer et il s'est assis par terre. Et on s'est assis par terre et on a vécu vraiment un moment, mais vraiment de simplicité et de communion et une énergie extraordinaire, mais surtout une humilité vraiment extraordinaire. Moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué en fait chez ce personnage qui inaccessible mais en même temps d'une gentillesse et d'une vraie simplicité et d'une vraie humanité. Voilà.
Une aventure donc tu disais croisement d'études, de fin d'études, c'est ça? C'était d'entrer dans la vie professionnelle?
Oui, alors moi j'ai fait à la fois des études de communication, j'ai fait le CELSA à Paris, et des études de droit, droit public, sciences politiques.
Ah, voilà. Mon Dieu.
M'a amené au deuxième volet de ma passion, puis finalement un petit peu de ma carrière, enfin en tout cas dans un premier temps, puisque voilà, j'étais collaboratrice parlementaire, avec des rencontres aussi, j'ai pas choisi ces dates, mais voilà, André Rossinot, que j'ai rencontré en 1993, a été effectivement une rencontre décisive dans ma vie, voilà, tout simplement. Et il n'y a pas que lui, hein. Je parlerai aussi de Jean-Marie Schleret, que j'ai rencontré à la même époque, avec qui j'ai collaboré, avec qui je continue à collaborer, pour lequel, enfin, en tout cas l'un comme l'autre, j'ai une admiration très très profonde. Voilà.
Alors, Cécilia Gégère, on ne s'est pas présenté, je ne t'ai pas présenté, directrice dans tes fonctions professionnelles, on est allé tout de suite dans de l'humanité, directrice générale adjointe de Vivest, un opérateur du logement social. Quelques mots sur Vivest qui apparaît dans le paysage nancéen.
Alors en effet, hein, Vivest, c'est une dénomination et un nom qui est assez récent. Hein, donc la société est née en juillet 2021. Donc c'est une filiale du groupe Action Logement. Donc on gère un peu plus de 23 000 logements sur les départements de Moselle et de Meurthe-et-Moselle. Moi, je suis arrivée dans cette aventure parce que j'étais la directrice générale d'une autre société bien connue et plus connue à Nancy, qui est la société Lorraine d'Habitat, dont j'assumais la direction générale. Voilà, donc en juillet 2021, donc on a fusionné pour devenir non pas un nouvel opérateur, puisque ce sont des acteurs du territoire déjà présents depuis longtemps, mais en tout cas pour rassembler nos forces sur les départements de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, et poursuivre le développement de la société. Voilà, donc c'est une société qui œuvre dans le domaine du logement social. Donc on construit, on gère du logement social. Donc nous sommes aussi une filière d'Action Logement.
Et à ce titre, pour ceux qui sont un peu éloignés, Action Logement, c'est qui, c'est quoi ?
Alors Action Logement, c'est un groupe. En fait, on fait partie d'un groupe. Action Logement, c'est un groupe qui est né en 98 du rapprochement de tous les collecteurs qui s'occupent de collecter ce qu'on appelle le logement des salariés. En fait, il y a des cotisations que toutes les entreprises payent.
Le 1% logement,
l'ancien 1% logement pour les salariés. Et donc, il y a des filiales immobilières qui dépendent de ce groupe. Donc aujourd'hui, une grosse quarantaine de filiales immobilières sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi dans les Drômes. Et effectivement, nous sommes des acteurs du logement social avec cette mission aussi particulière de servir les entreprises du territoire et de faciliter le lien emploi-logement et la mobilité des salariés sur le territoire national. Voilà, ce qui est assez important dans une période comme celle qu'on traverse en ce moment.
Alors, un des opérateurs du logement social sur le territoire. Le lien avec ta carrière, comment tu es arrivé pas à Vivest, mais à SLH, ou comment tu es arrivé dans le secteur du logement social? Il y a un choix de métier, il y a un choix de carrière, d'engagement?
Alors, il y a clairement le souhait de l'engagement, hein, celui de l'utilité sociale, celui de la chose publique, hein, comme on dit, puisque je crois que c'est vraiment dans mon ADN, hein, c'est de pouvoir travailler au service de l'intérêt général. Pourquoi le logement social ? C'est effectivement parce que c'est un métier qui a du sens, parce qu'il s'ancre dans un territoire, puisqu'on construit des logements, on produit des logements pour y loger des salariés, pour y loger des personnes qui n'ont pas forcément accès à l'immobilier privé. Donc il y a une part de hasard, mais comme on ne fait jamais rien tout à fait au hasard, je parlais d'André Rossino, je parlais de Jean-Marie Schleret, je crois que c'est ces rencontres-là qui, après, je dirais, une période d'apprentissage et de formation à leur côté, m'ont clairement ouvert les portes en 96, ça commence à dater, du logement social. Donc oui, il y a Vivest aujourd'hui, il y a eu SLH, mais il y a aussi la plus grande partie de ma carrière dans les offices publics de l'habitat, aussi bien ce qui est aujourd'hui l'office métropolitain que Meurthe-et-Moselle Habitat, hein, le départemental. J'ai travaillé 15 ans pour l'office du département, donc c'est une très très grande part de ma vie professionnelle.
Alors justement, on va se spécialiser un tout petit peu aujourd'hui avec toi, et merci Cécilia de nous partager cette expérience-là. Tu dis un bailleur public versus un bailleur privé, c'est ça que ça veut dire ? Vivest est un Un bailleur privé, comment ça se passe?
Oui, alors, le logement social, c'est une grande famille, mais dans la famille...
C'est vrai qu'il y a un esprit de famille.
Il y a un vrai esprit de famille, mais voilà, alors pour les...
RCN, on a la chance d'avoir le forum des bailleurs, ils sont quatre autour de la table à chaque fois, ça se passe super, et depuis toujours.
Donc pour ta culture personnelle...
Et c'est des auditeurs,
excellent. Viveste, mais aussi Batigeur... sont ce qu'on appelle des entreprises sociales pour l'habitat. Donc, dans la grande famille du logement social, ce sont des entreprises privées et puis avec une gouvernance qui diffère de celle des offices publics qui ont dans leur gouvernance des collectivités territoriales, ce qui n'est pas le cas des entreprises privées.
Alors c'est qui alors?
Mais on fait tous le même métier. Alors nous on a...
C'est des entreprises, c'est ceux auprès de qui on collecte le 1%, enfin
alors,
l'ex-1%.
Nous on est une filiale du groupe Action Logement. Action Logement c'est un groupe paritaire, c'est le paritarisme. Donc ce sont tous les syndicats patronaux et les syndicats de salariés qui gèrent ensemble cet outil Action Logement. Donc on retrouve dans les conseils d'administration des ESH du groupe Action Logement à la fois... les syndicats, donc aussi bien le MEDEF que les syndicats de salariés. Et on y retrouve également des collectivités territoriales qui siègent, puisque nous sommes un acteur économique important et on est, tout autant que les offices publics, en dialogue permanent avec les collectivités territoriales. Voilà. Alors... C'est des détails, ça.
Ouais, c'est des détails, mais ça permet de quand même de savoir la différence un tout petit peu. Mais en tout cas, l'action au service des habitants et du territoire est la même.
On fait exactement le même métier. Voilà.
Sur l'évolution du besoin aujourd'hui, que tu dis ça fait un certain temps, comment tu vois que ce soit dans le privé ou dans le public, on voit bien, il n'y a pas beaucoup de différence, hein, on est bien d'accord là-dessus, sur la fonction bailleur social. Quelle est l'évolution de ton métier de bailleur social?
Alors,
ces 20 dernières années.
Ce que je dirais, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, c'est un métier, c'est un écosystème qui est en évolution et en transformation permanente. C'est ce qui fait sa richesse, c'est ce qui fait que c'est un métier passionnant. Moi, je suis arrivée dans le domaine du logement social en 96. On est en 2023. La transformation des sociétés, la transformation des organisations a été considérable. Donc c'est tout le processus en fait d'organisation interne d'un point de vue ressources humaines qui est très très riche. Nous on a à peu près 70 métiers dans le logement social et on a des métiers qui ont émergé sur les 10-15 dernières années. Donc ça veut dire rechercher des compétences nouvelles, des collaborateurs. On a beaucoup évolué sur notre manière d'approcher aussi les candidats, de travailler sur le recrutement. Donc ça a beaucoup, ce sont des métiers très très riches qui se sont beaucoup diversifiés. Aujourd'hui, pour te dire, par exemple, on fait de l'aménagement, ce qu'on ne faisait pas.
Ça veut dire quoi de l'aménagement ?
De l'aménagement, c'est-à-dire qu'on agit en tant que aménageur, c'est-à-dire sur une escalope foncière, on va organiser l'ensemble d'un foncier pour y produire.
Alors, il y avait une PME, PMI sur un quartier.
On va produire du logement social, mais on va aussi produire du logement privé, on va faire de la vente de parcelles, on va travailler au développement d'outils, que ce soit des outils de services publics, des crèches, des maisons médicales. Voilà, donc c'est très très différent. Notre activité, elle est toujours centrée vers la location immobilière, donc logement social, mais on fait aussi de la vente de patrimoine ancien pour créer des parcours résidentiels pour les habitants, pour les primo-accédants. Et on fait aussi du neuf. Et on fait même un peu un travail un petit peu de promoteur, même si c'est de la promotion sociale, mais ça s'apparente au travail de promoteur.
Voilà. Petite pause musicale. On va reprendre un tout petit peu tout ça, voir avec le lien avec le locataire et l'usager, et puis reprendre ce parcours de vie de Cécilia. Calogero, pourquoi ?
Alors, je suis pas fan de Calogero, mais j'adore cette chanson parce que j'ai un petit peu j'ai un peu tendance à ne pas être forcément très sûre de moi, à être un peu timide et parfois à procrastiner, comme on dit. Et donc cette chanson, elle dit que la peur, c'est une sale habitude qui fuit du pire les certitudes et que le doute est une contrefaçon qui déguise les possibles en non. Voilà. Donc, et comme j'aime bien l'action et que je pense qu'il faut aller de l'avant, je trouve que cette chanson est parfaite.
Alors je rebondis, Cécilia, pardon.
Je rebondis, mais
je te connais donc depuis un petit bout de temps. Et je me suis dit, Cécilia, ça va bien se passer, tout va bien. Bon, t'étais en retard, je me suis dit, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de préparation, ça va rouler, tout ça. C'est pas grave, ça va rouler. Et je sens, j'entends une Cécilia très en retenue, très...
Ben non,
oui, oui. Je comprends ce choix musical.
Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. Combien d'amour raté par heure, combien d'instants loupés par peur, parce qu'on ne se sent jamais prêt à tout remettre au lendemain, les mots, les courriers ou les trains. On devient nos propres barrières, à force de trop hésiter, à force de tout éviter. L'occasion va passer, on s'empêche d'avancer. Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. La peur est une sale habitude qui fait du pire une certitude. De tous nos projets, des regrets. Le doute est une contrefaçon qui déguise les possibles en non et tous les plus tard en jamais. À force de trop hésiter, à force de tout éviter, l'occasion va passer, la passion va casser. Et finalement tu t'es lancé sous l'habitude, l'a embrassé et c'était mieux après. Demain est un joli pays, à chaque minute tu le franchis, et chaque seconde est une frontière. La nostalgie est une manie qui fait d'hier à aujourd'hui. Elle met ta vie en marche arrière, et on se noie dans des verres d'eau, à trop tourner autour du pot. On pourrait, s'il le faut, repartir à zéro. Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. C'était mieux après. Oui, finalement, tu t'es lancé. Ta vie, tu l'as recommencé. Mais c'était mieux après.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bon, vu qu'on s'est tout dit en introduction de Calogero, on n'a plus rien à se dire sur la musique, tout va bien, la vie est belle, ça va, ça s'est bien passé ?
Ça s'est bien passé.
Une vraie pause. Le logement social, tu disais, c'était une continuité assez logique par rapport à tes engagements professionnels avant. On peut dire que ce parcours-là, c'était un peu celui que tu avais dessiné. Tu as dessiné à partir de quand? Ouais, c'est bien, tu fermes ton cahier, c'est cool. Ouais,
non, pas doute, enfin, ça serait mentir. Enfin, moi, je connais personne, quand elle était petite fille, qui se dit « je vais travailler dans le logement social hein. ». C'est valable pour les petits garçons, hein, ce que je dis. Non, c'est...
Alors Cécilia fait partie des personnes que je connais de mon entourage qui fais attention à la parité dans tes invités, fais attention à la parité dans tes invités, c'est pour ça, c'est vrai, tu me le dis souvent.
Non mais c'est vrai, c'est important, ouais. Voilà, faut pas,
on va essayer,
faut
une
pas
question,
banaliser
ça va être une question, non mais ça va être une vraie question.
Oui, donc non, j'en rêvais pas. Je peux même te dire qu'en 96, quand j'ai démarré dans le logement social, je ne savais pas ce que c'était qu'un logement social. Et j'ai découvert des métiers extrêmement riches. Tu l'as dit, hein, ça a du sens. On fait les choses pour des gens. Hein. On sait qu'avoir un toit sur la tête, avoir des conditions de vie et d'habitat qui sont dignes, parce que c'est la base.
Ouais, c'est la base pour,
c'est la base pour c'est ça, c'est la base pour c'est le socle, c'est le socle initial pour pouvoir étudier, pour pouvoir avoir une vie sociale, pour pouvoir être intégré sur un territoire, pour pouvoir s'engager auprès d'associations. Donc c'était effectivement très très naturel, mais je pense que j'aurais pu travailler dans tous les domaines qui mettaient l'homme au centre du tableau, et qui tous les jours, par des actions même très 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 simples, permettent d'améliorer le quotidien de tout à chacun. Voilà.
On sent derrière une dimension politique assez forte, hein, l'engagement au service de la cité. Voilà. Cet engagement-là, il vient aussi de loin, celui-là, ou la fac de droit.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Certainement, je crois qu'il y a une alors pas de goût pour la politique à proprement dit, mais beaucoup d'intérêt pour la société, pour les grands enjeux de société, les grands faits de société, un goût très prononcé pour l'histoire, voilà. Voilà, et oui, je suis assez passionnée de tous les hommes, bien souvent des hommes politiques qui ont fasciné l'histoire politique de notre pays. Donc et puis
si tu avais des
lesquels,
ouais, un ou deux que tu as envie qui t'intriguent, pas forcément que tu admires, hein, mais ou qui te ça peut être les deux, hein, d'ailleurs.
Ouais, c'est compliqué là, parce que c'est quoi que je dise, ça risque.
Ça peut venir de loin, ça peut remonter loin dans l'histoire.
Ça pourra être interprété.
Ça peut remonter loin dans l'histoire. Ouais.
Oui, je vais être très très original. Hein, je vais te parler du général de Gaulle. Ouais. Effectivement, je pense que c'est effectivement quelqu'un qui a très très fortement marqué notre société, même si c'était la société d'une époque et que y compris tous les choix du général de Gaulle ne sont pas à porter au nu systématiquement. Enfin, en tout cas, il est l'expression d'une époque, et il est l'expression d'un pouvoir qui était en responsabilité, et à cette époque-là, il incarnait aussi une France qui était très très présente sur la scène nationale, mais aussi sur la scène européenne et internationale. Mais ça fait partie de l'histoire. Moi, voilà, parce que c'est pas la politique pour la politique. Et puis il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres.
Cécilia a grandi où ?
Eh ben moi, j'ai grandi j'ai grandi à Nancy, et toute petite, j'ai grandi dans le Bayonnais. Tu sais, c'est le pays des Mirabelles. Voilà.
Voilà. Quelques références, voilà. Nancy, les études Nancy.
Les études Nancy, avec effectivement quelques années pour cause d'études, justement passées à Paris, mais jamais loin de Nancy, avec des retours très très réguliers. Voilà, attaché à mon territoire, très attaché à mon territoire.
Pourquoi ? La famille, les amis ou
La famille,
ou un cadre de vie où tu Tu te poses, tu te sens
oui.
à l'aise.
Un cadre de vie que j'apprécie, sinon je l'aurais quitté. Et puis, de la famille, des amis, beaucoup d'amis. Et puis, des gens... moi, je crois que ce qui est important pour moi, c'est les gens. Voilà. Donc, moi, dans mon travail, ce qui compte, c'est les gens. C'est les relations que je peux avoir avec les gens. Et ceux que j'aime, ils sont ici.
Alors justement, dans les dates importantes dans ta vie, il y a le 1er octobre 2000 et des gens que tu aimes particulièrement.
Alors c'est la date de naissance de ma fille, voilà. Alors elle est un peu moins attachée au territoire.
C'est vrai.
Vendredi elle est partie en Irlande, vous voyez.
Oh, donc ça va.
Voilà,
elle
s'est un petit peu expatriée, donc
longtemps.
Voilà. Donc dans un premier temps 6 mois et
potentiellement.
Peut-être plus, on verra. Enfin, voilà. Non, bon, après, c'est beau, hein, les voyages. Comme on dit, ça forme la jeunesse, mais la maman que je suis est un peu triste.
Alors, ça marque quoi, ce 1er octobre 2000?
C'est la consécration. Hein. Moi, j'ai une fille, j'en ai qu'une. C'est l'alpha, c'est l'oméga. Je suis sa plus grande fan. Voilà, donc je...
Elle arrive à respirer,
elle
c'est peut-être pour ça qu'elle s'en va, là.
Ouais, non, elle arrive à respirer, mais je suis toujours complètement émerveillée à la fois par sa légèreté, mais en même temps par sa détermination, par son audace et puis sa spontanéité, son naturel. Moi je suis fan.
Elle a des choses que tu as envie, que tu lui as envie.
Non,
je ne sais pas ce que tu évoques de.
Je la trouve très courageuse des fois je me dis mais est-ce que à son âge j'avais la même détermination alors sans doute mais on n'oriente pas les choses pareil et puis surtout c'est ma fille je partage avec elle une grande passion qui est la passion équestre, la passion des chevaux voilà donc c'est aussi une connexion très 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 particulière et c'est des moments de partage qui sont exceptionnels quoi.
J'en profite puisqu'on est sur ta fille, c'est vrai que la question de la parité, quelque chose que tu...
Ouais. Hein,
tu peux nous en dire deux mots ?
Sur la parité ?
Ouais, ouais. Parce que c'est un milieu... Parce que dans ton environnement, parce que... pourquoi cette attention
Parce que ça fait partie...
Sans militantisme,
non,
mais
ça fait partie. Ça fait partie, ouais. C'est quand même un sujet de notre société, avec lequel on n'est pas toujours à l'aise. Alors, moi, je ne suis pas féministe du tout, comme tout à chacun. Alors, je constate énormément de progrès. Moi, je suis arrivée en 96 dans un milieu qui était vraiment un milieu d'hommes. Il y avait très peu de femmes dans les comités exécutifs, dans les comités de direction. Il y avait très peu de femmes dirigeantes dans le logement social. En 20 ans, ça a énormément changé. Bon, sur les postes de dirigeants, ça reste encore quand même un peu timide. Il y a toujours un peu de progrès à faire. J'étais pas longtemps, il y a pas longtemps, à une convention nationale et on était deux femmes et elle me dit « Ne te mets pas à côté de moi parce que, en fait, si on se met une à côté de l'autre, on s'efface ». On s'annule. Donc bon, voilà, tout n'est pas gagné. Je crois qu'il y a, y a effectivement des jeunes filles aujourd'hui qui font des études, qui sont extrêmement brillantes. Je crois que de plus en plus, et heureusement, les femmes ont accès à toutes les sphères professionnelles. Mais notre société a quelque chose d'un peu archaïque, parfois.
Naturellement.
Voilà, voilà naturellement.
Ouais. D'où la vigilance.
D'où la vigilance. Voilà.
À chaque fois, j'accueille avec...
Non, je vais te dire, il y a 12 ans, c'est pas vieux, il y a 12 ans, il y a un monsieur très très bien qui dirige une entreprise importante dans le domaine de l'immobilier, du bâtiment, etc. Et donc, il arrive un soir dans les bureaux, il était 20h, et il dit à mon patron de l'époque, elle est vraiment super, ta secrétaire, elle reste hyper tard. Voilà,
ça,
j'étais directrice générale adjointe. Voilà, donc alors en plus secrétaire, c'est un superbe. On dit plus secrétaire d'abord, assistante de direction, mais quand même, ça veut dire que voilà. Alors c'est peut-être générationnel, mais il y a encore des choses à faire.
Et on va finir en beauté avec une troisième date importante dans ta vie. Par contre, c'est un homme cette fois-ci.
Ah oui, c'est un homme. C'est mon époux. En plus, je suis une jeune mariée. Je me suis mariée en 2018. Alors je dis pas remarier hein, parce que c'est nul, hein. Mais voilà, donc c'est très important. Donc effectivement, cette date elle est importante pour moi parce que un peu tardivement, j'ai vraiment rencontré mon âme sœur, mon alter ego et celui avec qui je partage voilà ma vie et mes passions et mes combats et mes engagements. Et on n'est pas toujours d'accord, mais voilà, on est un couple très très soudé et très heureux.
Cécilia Gégère, c'était mon invitée, une femme heureuse.